ラフトレ
Bonjour et bienvenue dans le numéro 46 de Jaftamer sur RLP. Aujourd'hui, le CNRS invite via Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS, donc, ainsi qu'à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Madame Castelin-Meunier est auteure d'une bonne vingtaine d'ouvrages en nom propre et a contribué à une bonne vingtaine d'autres de manière collective. En 2020, nous noterons d'ailleurs l'instinct paternel, plaidoyer en faveur des nouveaux pères chez Larousse, ainsi que les hommes aussi viennent de Vénus, fort et sensible, les nouveaux visages de la virilité, toujours chez Larousse, ainsi que et si on réinventait l'éducation des garçons, petit manuel pour dépasser les stéréotypes et élever des garçons libres et heureux chez Nathan, toujours en 2020. Ce sera une émission en deux parties où nous couvrirons de nombreux thèmes passionnants. Mais tout d'abord, Thierry Laverne, notre pédopsychiatre et psychanalyste préféré, nous parle des enfants et de leur rapport au Covid. Ne bougez pas, c'est après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Thierry Laverne sur RLP aujourd'hui avec une question extrêmement d'actualité. Est-il bon de s'adresser aux enfants pour leur dire qu'ils pourraient peut-être, par leurs gestes d'amour, contaminer leurs anciens, leurs grands-parents, leurs parents? Qu'est-ce que ça leur fait à l'intérieur et comment est-ce qu'ils réagissent? Avec Thierry Laverne, pédopsychiatre en service public et en libéral, ainsi que psychanalyste. Dites-nous ça.
Oui, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Effectivement, dire à un enfant qu'il peut transmettre un virus mortel à papy ou à mamie en lui faisant un bisou, ça peut paraître quelque chose de terrible, d'horrible. Mais en même temps, il faut savoir que les enfants vivent des choses terribles, horribles, ont des fantasmes terribles, horribles. J'imagine que nombre d'entre nous ont lu des contes à leurs enfants et dans ces contes, il y a des grands-mères qui sont dévorées ou qui dévorent,
Oui, les contes pour enfants sont très violents.
Voilà, il y a des sorcières qui mangent des petits-enfants, il y a des parents qui décident d'abandonner leurs enfants dans la forêt, il y a même des contes où on mange les petits-enfants, enfin, donc finalement, les choses horribles, eh bien, du vécu de l'enfant normal et des fantasmes de l'enfant, et ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est de savoir qu'il y a autour de lui des gens, des garants, des adultes, qui vont le garantir justement, lui donner des lignes de conduite, le garantir d'un certain nombre de dangers, de la forêt, de tout, et que lorsque on lui dit quelque chose comme par exemple il y a un virus qui en ce moment circule et c'est pour ça que tout le monde porte un masque dans les magasins, c'est pour ça aussi qu'il y a eu le confinement, l'enfant est très intéressé par toutes ces explications et a besoin, au contraire, qu'on le lui explique. Le problème, c'est que, en tout cas là, dans le cas de la Covid-19, il y a eu évidemment au début des informations qui n'étaient pas tout à fait fiables parce que la maladie était encore pas très bien connue. Et donc, il y a peut-être eu des informations qu'on n'aurait pas dû donner ou qu'on aurait été mal comprises. Mais à ce moment-là, il suffit d'expliquer à l'enfant qu'aujourd'hui, en effet, les masques, il faut les porter, en tout cas les adultes, que comme les enfants sont petits en taille et probablement peu contaminants, eux peuvent se passer de masque jusqu'à un certain âge. Je crois qu'il y a tout intérêt à tout expliquer justement aux enfants avec les données actuelles de la science et en disant aussi que la science est évolutive. C'est une manière aussi pour l'enfant d'être rassuré que de voir que ses parents réfléchissent et lui montrent la voie vers un monde qu'on peut essayer de comprendre en toute modestie, en disant que finalement on ne comprend pas tout, mais que dans la mesure du possible, on essaie de comprendre un maximum de choses.
Voilà, l'ouverture, le dialogue, l'explication, la franchise, afin de rassurer l'enfant et de le cadrer dans son comportement.
Oui, et d'ailleurs j'ajouterais que lorsque le parent a ce comportement-là, finalement lui-même est beaucoup moins anxieux. Ça aide aussi le parent à transmettre moins d'anxiété parce qu'il va mettre en mots les craintes qu'il ressent pour ses proches ou pour lui-même d'ailleurs d'attraper cette maladie qui pour certaines personnes est terrible. Hein, voilà, c'est ça l'injustice de cette maladie aussi.
Ok, merci, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
RLP
Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3 avec aujourd'hui Christine Castelin-Meunier. Christine, vous êtes là ?
Oui, bonjour.
Bonjour madame, merci beaucoup d'être venue avec nous. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît vous présenter pour nos auditeurs, indiquer qui vous êtes, d'où vient l'origine de votre parole et de quoi vous allez nous parler ? S'il vous plaît.
D'accord. Donc, je m'appelle Christine Castelin-Meunier, je suis sociologue au CNRS, à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, CNRS, Centre national de la recherche scientifique. J'interviens assez souvent à l'École des psychologues praticiens et donc je travaille sur les questions du masculin, du féminin, de l'enfant, de la famille, de l'environnement. Et donc, je suis passionnée par tous ces thèmes-là. Et je considère que j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler et faire des recherches sur ces thèmes qui m'apportent aussi beaucoup dans ma vie quotidienne et personnelle et familiale.
J'ai cru comprendre que vous aviez travaillé sur plusieurs projets de loi pour la commission du Sénat et éventuellement des PPL préparatoires à l'Assemblée nationale avec notamment Madame Ségolène Royal, non, c'est ça ?
C'est-à-dire que donc il y a plusieurs choses. En 2000, Ségolène Royal m'a fait venir alors qu'elle était ministre déléguée aux affaires familiales pour faire un topo sur la paternité puisque je travaillais sur la paternité depuis déjà un certain temps. Et donc là, j'ai proposé que on allonge le congé de paternité et qu'on crée un livret de paternité parce qu'il existait un livret de maternité mais pas de paternité. Et finalement, alors là où j'étais très contente, c'est que il y avait un grand nombre d'associations qui étaient présentes et un certain nombre d'associations sont venues me voir pour me remercier de vraiment proposer cet allongement du congé de paternité et puis pour mon intervention sur la paternité en disant que on était dans une société qui peinait à accepter l'évolution de la situation des pères et que c'était très important de dire à quel point cette place du père dans l'éducation était fondamentale. Alors, ce qui est très sympa, c'est que en 2002, donc la loi a été dans le sens de ce que je proposais, c'est-à-dire l'allongement du congé de paternité. Malheureusement, il n'a pas été allongé comme j'aurais souhaité qu'il soit allongé, mais c'était déjà un progrès puisqu'il a été donc promulgué dans le sens de 11 jours plus 3. Voilà. Et puis le livret de paternité a été élaboré, donc j'étais ravie d'avoir contribué à ça. Il était envoyé par les CAF et aujourd'hui il s'est transformé en livret parental. Voilà. Donc tout récemment à l'Assemblée, bien sûr, on m'a fait venir et pour parler de la question du père. Et je serais ravie que, bien sûr, en juillet, véritablement le congé de paternité soit allongé. Mais là encore, j'aurais souhaité qu'il soit allongé plus que de 28. Voilà.
Oui, comme en Europe du Nord. Vous faites donc partie des gens qu'il faut remercier pour cette loi de 2002 qui nous sauve, en fait, dans la famille.
Mais tant mieux.
Bon. Est-ce que vous avez participé à d'autres projets de loi et d'autres avancées ?
Ben sur l'éducation, sur l'égalité, sur toutes ces choses-là, mais détailler tout ça, c'est peut-être un petit peu périlleux, un petit peu long. Disons que tout ça s'inscrit dans la volonté de faire en sorte que les hommes et les femmes partagent des responsabilités éducatives et domestiques entre eux, et que les droits des femmes avancent vers l'égalité des droits civiques et sociaux et l'égalité professionnelle en termes de salaire. Donc pour moi, tout ça fait sens aujourd'hui pour aller vers un meilleur équilibre du partage des responsabilités entre les hommes et les femmes dans le domaine éducatif et familial.
Alors juste pour savoir, en 30 secondes, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à faire ce choix de carrière et à prendre cette direction ?
La recherche, donc, je trouve ça passionnant. J'ai eu la chance de rentrer au CNRS. Je ne savais pas au départ quoi j'allais travailler de manière continue comme ça. J'avais passé 2 ans au Chili où j'étais beaucoup intervenue dans un bidonville, un jardin d'enfants, la création d'un journal avec les habitants du bidonville. Ça, c'était sous la période d'Allende. Et la lutte pour une vie décente dans un bidonville, avoir le droit à l'éducation, à la santé, au travail, au logement, tout ça. Et quand je suis rentrée en France, je travaillais beaucoup sur toutes les petites activités économiques informelles. Et ensuite, j'ai travaillé, avant de rentrer au CNRS, sur la question de la condition féminine. Et en fait, quand je suis rentrée au CNRS, après, j'ai travaillé sur le mouvement des femmes. Et là, ce qui m'a impressionnée, c'est que j'ai rencontré des groupes de défense de la paternité, parce que il y avait eu la constitution de ces groupes de défense de la paternité, notamment en réaction à la loi qui était passée un certain nombre d'années avant, en 1975, pour le divorce par consentement mutuel, et qui avait généré des difficultés ensuite en cas de séparation entre le père et la mère pour la question de la garde des enfants. Et donc, en général, la juge aux affaires familiales confiait la garde de l'enfant, surtout s'il était petit, à la femme et pas à l'homme, et je trouvais que là, c'était dommage. Par contre, j'avais trouvé qu'il y avait des groupes de défense de la paternité qui étaient pour moi pas satisfaisant parce que il montait au créneau en disant que s'il y avait des problèmes du côté de la paternité, c'était à cause du mouvement d'émancipation des femmes. Et moi, à ce moment-là, j'ai tenu à aller voir du côté de l'histoire et de la psychanalyse pour mieux comprendre tout ça. Et je me suis rendu compte à quel point la question de la paternité avait changé, notamment à la Révolution française. Et que donc, c'était une erreur de dire que le pouvoir des pères avait diminué avec le mouvement des femmes, parce que là, ce qui était important, c'était toute la réflexion sur la manière de gérer le moins mal possible les séparations, et notamment permettre à chacun, homme et femme, d'assumer ses responsabilités éducatives.
Alors, vous avez écrit une 20aine d'ouvrages, vous avez collaboré aussi de manière collective à 20aine d'autres, dont beaucoup sur ce sujet, et cette année, vous publiez notamment 3 ouvrages de référence, on l'espère, hein. Et si on réinventait l'éducation des garçons, petit manuel pour dépasser les stéréotypes et élever des garçons libres et heureux, chez Nathan, les hommes aussi viennent de Vénus, Fort et sensible, les nouveaux visages de la virilité chez Larousse, et l'instinct paternel, plaidoyer en faveur des nouveaux pères chez Larousse, qui a une couverture, une photo absolument magnifique. Pourquoi 3 ouvrages la même année? En fait, qu'avez-vous voulu exprimer?
Oui, alors commençons par l'instinct paternel, et je vous remercie pour le compliment sur la couverture.
Ah, en tant que papa, je craque, c'est magnifique.
Génial, tant mieux, et oui, il faut remercier l'éditeur et le photographe de l'éditeur de Larousse. Et pourquoi faire un livre sur l'instinct paternel? C'est pour montrer à quel point, j'ai déjà parlé d'histoire, à quel point il y a toute une épopée historique passionnante qui rend compte de l'évolution de la paternité depuis le début de l'humanité. Et c'est vraiment fabuleux de voir à quel point il y a eu des moments où la part du père était très importante et le père était très impliqué, y compris notamment au temps de la préhistoire, et puis aussi au temps du Moyen-Âge, pour les paysans qui étaient très impliqués, qui emmenaient les enfants petits au champ, qui savaient leur donner à manger, les changer, etc., etc. Par contre, il y a eu d'autres époques où là, la place du père était mise tout à fait à l'écart et était conçue d'une autre manière, et notamment autour de ce que moi j'appelle un peu ce patriarcat, qui signifiait que le père avait une place surtout à l'extérieur de la famille, mais dans la famille, il était le responsable juridique, et c'était lui qui faisait la loi, c'était c'était lui qui disait non, c'était lui qui avait le pouvoir économique, qui était le chef de famille sur le plan économique, et la femme s'occupait des enfants à l'intérieur de la famille, et c'était une place qui est devenue très hiérarchisée entre l'homme et la femme à la période industrielle. Et là, j'ai voulu montrer à quel point nous étions encore les héritiers de cette période-là, qui signifiait que la place du père, c'était à l'extérieur de la famille, sa part était juridique, par opposition à la place de la mère, qui elle était du côté de la toute petite enfance, de l'entretien des besoins, bref, de l'éducation au sein de la famille.
C'est intéressant. Est-ce que cela veut dire que le patriarcat, en fait, est arrivé durant la révolution industrielle et que l'implication des pères contemporains que nous vivons aujourd'hui a pu exister autrefois dans notre histoire ?
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu les héritiers de cette période industrielle qui hiérarchise comme ça les sphères privées et publiques, domestiques et publiques. Les hommes, la sphère publique de la production. Les femmes, la sphère privée de l'intérieur de la famille et de la reproduction. Et on est les héritiers de tout ça. Mais en même temps, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on hérite d'une histoire beaucoup plus riche concernant le déroulement de cette paternité que moi, aujourd'hui, j'appelle, parce que je trouve qu'elle a changé, notamment beaucoup du côté des jeunes générations, c'est une paternité impliquée et c'est une paternité relationnelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, un certain nombre de pères ont bien compris que ce qui fait la paternité, c'est le lien avec l'enfant. Et ce n'est pas tout ce qui relève du symbolique, de l'extériorité à l'éducation. Et c'est vraiment, voilà, s'occuper de l'enfant à part entière, si je puis dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aux origines de l'humanité. Voilà, et ça, c'est très intéressant.
I'll be damned, here comes your ghost again. But that's not unusual, it's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall.
Madame Castelin-Meunier, dites-nous, pourquoi une femme pour parler du masculin ? C'est un petit clin d'œil. Pourquoi vous ? Pourquoi est-ce que c'est vous qui venez nous défendre ainsi ? Pourquoi est-ce que c'est une femme qui vient parler des hommes ? Dites-nous.
Ah oui, alors, bien sûr, ça peut surprendre, mais pour moi, ce qui est évident, c'est que pour que la condition de la femme change, il faut que la condition de l'homme change. Et que pour on aille vers une société qui permette à chacun d'être dans l'estime de soi, le respect d'autrui, il faut vraiment que ça change des deux côtés. Et que pour moi, ce qui compte, c'est la dialectique des rapports entre les hommes et les femmes qui va faire que nous allons aller vers une société plus libre, moins inégalitaire, plus respectueuse de chacun et plus respectueuse des différences aussi entre les individus. Voilà. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Alors, j'ai peut-être des affaires plus profondes qui ont motivé le fait que, finalement, je suis restée sur ces sujets. Ben voilà, qui me motive. J'aurais pu changer de sujet. J'ai peut-être aussi cette histoire familiale qui est derrière, à savoir que je sentais qu'il y avait des tensions entre mon père et ma mère. Et puis, quand je suis passée à la télé pour mes bouquins, il y avait mon nom qui était écrit sous mes ouvrages. Et peu de temps après ces épisodes-là, j'ai reçu une lettre. Voilà, une personne m'écrivait. Je vous écris car nous avons le même père. Voilà. Et du coup, là, l'histoire a commencé un peu autrement. Donc, voilà, avec les rencontres avec cette demi-sœur, sachant que par ailleurs, j'ai déjà 5 sœurs. Voilà. Et je sentais qu'il y avait des soucis entre mes parents, des préoccupations, des tensions, et que ça les rendait malheureux. Et j'ai eu le sentiment que, ben voilà, la place de chacun, père, mère, n'était pas peut-être celle qu'elle aurait pu être s'il n'y avait pas eu des problèmes plus profonds entre eux. Voilà.
Alors, vous savez que notre grand credo dans l'association, vous savez, vous le savez pas, hein, c'est que nous sommes persuadés que notre salut, nous, viendra des femmes. Et peut-être de votre voix et de certaines de vos collègues aujourd'hui.
Mais tant mieux, merci, c'est très chouette. Et je voulais juste dire un mot sur les deux autres ouvrages, Les hommes aussi viennent de Vénus. Oui, sur l'instinct paternel, j'ai dit encore deux mots, parce que moi, ce que je trouvais important, c'était de dire à quel point la société parle beaucoup de l'impératif de la bonne mère et pousse les hommes à être des pères impliqués et relationnels, mais en fait, a beaucoup de mal à sortir de cette idée que les pères n'ont pas d'instinct paternel. Donc là, je tenais tenait à montrer à quel point tout ça renvoie à cette complexité historique et à définir aussi un peu mieux ce qu'était l'instinct paternel. Alors, l'autre livre, Les hommes aussi viennent de Vénus, là, chez Larousse, fort et sensible, Les nouveaux visages de la virilité, je tenais à le faire notamment pour montrer à quel point, eh bien, oui, il y a du changement du côté des hommes, oui, tous les hommes ne sont pas pourris, et comme c'est vrai, on peut parfois le penser tellement il y a un peu cette manière de parler des hommes en les présentant de manière excessivement négative, et que ce qui est très important, c'est de montrer à quel point, oui, c'est important d'accompagner les changements du masculin, et que les femmes acceptent aussi de faire une place aux hommes, et de les percevoir à travers les nouvelles aspirations des hommes, à changer aussi dans le, entre guillemets, le bon sens du terme. Et l'autre petit ouvrage, et si on réinventait l'éducation des garçons, chez Nathan, petit manuel contre les stéréotypes, pour dépasser les stéréotypes et élever des garçons libres et heureux. Pourquoi ? C'était pour montrer à quel point l'éducation des garçons était devenue un thème sensible. On s'était beaucoup préoccupé de l'éducation des filles, et à juste titre, pour sortir des stéréotypes, mais que aujourd'hui on avait du mal à se préoccuper de l'éducation des garçons, alors qu'il y a des garçons qui sont véritablement en dérive, et il fallait sortir de cette contradiction qui est qu'on veut à la fois que les garçons ne soient pas machos, qu'ils ne s'affirment pas à travers les stéréotypes, qu'ils veulent qu'ils soient forts, dominateurs, compétitifs, etc. Et tout sauf finalement cette préoccupation dans le sens de l'humain, quoi. Et donc je voulais montrer à quel point il fallait arrêter de les percevoir d'une certaine manière et les aider justement à sortir des stéréotypes et à aller vers une construction de leur identité, une affirmation de leur identité qui soit respectueuse des filles, des femmes, et qui suscite aussi le respect des femmes et des filles dans le sens où eux-mêmes pouvaient s'affirmer en étant libres, heureux, créatifs et respectueux, c'est-à-dire des personnes capables de combiner de la démocratie et notamment ce que j'appelle aussi la démocratie de l'intime pour le futur. Donc tout ça veut dire qu'il faut arrêter de les voir d'une certaine manière et à travers des stéréotypes, tout en les poussant à épouser ces stéréotypes.
Mais vous savez, il est tout à fait possible de se tenir droit, de regarder les gens dans les yeux, de faire de la compétition, d'être fort au travail et de tenir sa place tout en respectant les femmes et son environnement.
Exactement.
Tout simplement.
Hein. Exactement.
On peut très bien le faire. Cela existe déjà. Hein.
Exactement. Je voulais simplement dire que on sort de cette idée que l'homme est systématiquement dominateur, violent, systématiquement coureur, systématiquement, voilà. Sortir de tout ça et aider aussi les garçons à avancer dans ce sens-là. Voilà.
Écoutez, je vous en remercie.
See you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window at that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out, white clouds mingles and hangs in the air. Speaking strictly from me, we both could have died then and there.
Alors, dites-moi, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une source de friction sociétale dans tout ce que vous venez de dire ? Parce que depuis la révolution industrielle, on voit bien que la femme rentre dans le monde professionnel, mais il y a une symétrie qui s'effectue. Si jamais madame rentre dans le monde du travail, il faut que monsieur puisse rentrer dans le monde de la famille. Donc forcément, il y a translation. S'il y a translation, il y a friction.
Bon, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, dans le monde du travail, il y a des hommes qui éprouvent des difficultés à respecter, par exemple, des quotas, que ce soit une femme qui soit recrutée plutôt qu'un homme, parce que du coup, ils perdent une place. Bon.
Bon, je pense que ça diminue. Moi, je suis la génération 70-80. J'ai travaillé sous diverses autorités. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la performance et la compétence. Hein. Donc, ce sont des schémas. On parle de beaucoup de choses qui existaient avant ma naissance. Donc, je pense qu'au fur et à mesure du temps, on est plus placé sur la compétence que sur le genre. Dans le monde du travail, en fait, le combat semble en bonne voie. Par contre, dans le monde de la famille, il reste du travail. Là, il reste du boulot.
Voilà, c'est ça. Donc là, il y a des choses... Enfin, quand même, je continue à dire que dans l'univers politique, dans l'univers professionnel, il y a encore des différences qui sont discriminantes, et notamment en termes de conception de la carrière, en termes de salaire. Mais je suis d'accord avec vous, pour moi, tout ça va dans le bon sens, et c'est en train de changer, et tant mieux. Dans l'univers de la famille, c'est vrai qu'il y a des résistances, on pousse beaucoup les femmes à être dans l'impératif de la bonne mère, et on continue quand même à pousser les hommes à penser que ce qui compte, ce qui prime, c'est qu'ils aient un bon salaire, qu'ils aient un bon job, et du coup, la société s'organise de cette manière-là, avec cette idée l'idée que, le travailleur n'est pas forcément un père. Et ça, moi, je le dis justement haut et fort. Au contraire, il faut penser que le travailleur est aussi un père et que l'entreprise accepte l'idée que l'homme participe dans la famille et aussi entre les hommes et les femmes que les conceptions changent avec cette idée que, oui, l'homme est aussi compétent. Y compris dans l'univers de la toute petite enfance. Parce que là, c'est un domaine qui résiste encore très fort avec cette idée que, comme c'est la femme qui met au monde l'enfant, c'est la femme qui sait et qui a les compétences. Et effectivement, on se rend compte que plus les hommes participent et plus ils sont impliqués, plus ça marche aussi, et qu'il faut combattre cette idée que les hommes sont véritablement incapables de s'occuper d'un tout petit. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui bloque et qui est en train de se débloquer.
Très bien, merci.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas la rediffusion mercredi prochain 16h. La semaine prochaine, nous aurons la seconde partie de cet entretien absolument indispensable. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'oubliez pas les petits pouces bleus, les likes et les partages. Vous pouvez bien évidemment nous rejoindre sur les groupes Facebook, Association Équité Parentale, qui sont faciles à trouver. Et nous vous souhaitons à tous la meilleure des excellentes journées à venir. Au revoir, ciao, ciao, bisous à tous, à la semaine prochaine.
Laughter!